La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez avant notre débat du jour sur le G7 et la lutte contre les inégalités dans le monde. On va revenir là où nous nous en sommes arrêtés juste avant le journal, c'est-à-dire à l'agriculture nigériane. Jean-Pierre Boris est avec nous et Victor est en ligne de Tchang dans l'ouest du Cameroun. Victor, est-ce que vous pouvez reposer la seconde question que vous aviez pour Jean-Pierre?
Oui, François Mazé, cette décision ne compromet-elle pas le projet de la zone de libre-échange continentale?
Alors, la décision de Mouamadou Bouhari, je vais juste la redire pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est d'empêcher la Banque centrale de donner des devises pour l'importation de produits alimentaires, avec comme objectif d'encourager la production céréalière interne. Vous nous avez dit en première partie que ça ne marchait pas. Et là, donc la question que pose Victor, c'est est-ce que cette mesure protectionniste ne va pas à l'encontre de l'engagement nigérian dans la ZLEC, la zone de libre-échange africaine?
Et j'avais commencé à répondre que... La ZLEC, c'était une zone de libre-échange continentale à géométrie variable. C'est-à-dire que c'est un accord de libre-échange entre les différents pays africains. Enfin, qui, pour l'instant, c'est encore beaucoup de la théorie. Il va falloir que ça entre en vigueur. Mais chaque pays africain est libre de fixer ses règles de commerce avec le reste du monde. C'est-à-dire que dans la mesure, si par exemple, on imagine que ces céréales viennent d'Afrique du Sud. Là, les règles de la ZLEC sont censées s'appliquer. Mais si, comme c'est le cas pour l'essentiel du riz qui est importé par le Nigeria, ça vient de pays asiatiques, du Vietnam, de Thaïlande, etc., eh bien là, les règles de la ZLEC ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que le Nigeria est libre d'appliquer en particulier des droits de douane sur les importations, ce qu'il fait assez peu, c'est-à-dire que la dimension qu'a soulevé le président Bouhari, c'est-à-dire empêcher les importateurs d'accéder à des devises, elle est d'une certaine manière anéantie par le fait qu'il n'y a pas de politique réellement protectionniste qui protège les cultivateurs nigérians de riz.
D'accord, merci Jean-Pierre Boris. Donc en gros, Jean-Pierre, pour synthétiser pour Victor, le Nigeria ne veut plus importer de riz étranger, c'est l'exemple qu'on prend, mais en même temps, il empêche ses cultivateurs d'en importer, mais ne met pas de droits de douane suffisamment élevés à ses importations.
Oui, il empêche les importateurs, veut empêcher les importateurs d'importer, mais il ne met pas les droits de douane. Ce qui fait que ça reste malgré tout le second exportateur, et selon les chiffres des différents instituts, à horizon 2028, donc ça, on voit déjà assez loin, le Nigeria reste un énorme importateur de riz pour une consommation qui est estimée en 2028 à 10 millions de tonnes par an. Le Nigeria devrait continuer à en importer la moitié, 5 millions de tonnes.
Voilà, donc c'est énorme. Merci Jean-Pierre d'être venu, d'être resté avec nous. Et merci à Victor aussi de votre patience. Donc on va poursuivre maintenant avec notre débat du jour. Godson, vous êtes le premier de cordée à Lomé. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc Godson, il y a ce G7 qui se tient en France ce week-end, réunion des pays les plus riches de la planète. Et donc nous proposons ce matin à nos auditeurs de proposer des solutions pour un monde moins inégal. On peut parler de répartition des richesses, on peut parler d'environnement, de migration, d'éducation, de sécurité. Godson, vous, votre première solution, elle est très simple, ça serait de supprimer le G7.
Oui. Il faut qu'on supprime le G7, parce que déjà des cadres restreints comme le G7, ça pose un problème. Ça pose un problème en termes de légitimité, mais ensuite en termes d'efficacité. Légitimité en ce sens que, par exemple, si je prends la Chine, le poids économique de la Chine dépend de cette transaction avec les pays africains, par exemple. Mais la Chine ne peut pas se trouver dans un cadre pour discuter des affaires économiques sans son partenaire de bois. Donc ça pose un problème. Il faudrait qu'on dissout carrément le G7 et qu'on revienne au cadre traditionnel, notamment par exemple l'Assemblée générale des Nations Unies. Si ça ne suffit pas, quelle que soit la question, il y a des cadres mondiaux déjà qui regroupent toutes les structures, tous les pays, et où tout le monde est représenté pour débattre et avoir des solutions un peu plus
efficaces. Mais Godson, est-ce qu'on n'avance pas mieux à 7 ou même à 20 hein, dans le cadre du G20 avec d'autres grands pays qu'à 193, c'est-à-dire le nombre de membres de l'ONU?
Le souci, c'est l'applicabilité, justement. Parce que, par exemple, vous savez, dans mon pays africain, il y a un langage qui désigne nos chefs d'État comme des sous-préfets, des préfets, etc., en parlant dans une logique colonialiste. C'est-à-dire, pourquoi? Il y a des décisions qu'on prend dans des endroits restreints, où ils ne sont pas représentés. Mais ces décisions-là, ils les appliquent chez nous, alors que c'est eux que nous, on a élus. Alors, vous comprenez, à partir de ce moment que les gens les prennent, pour des gens qui sont là pour appliquer des décisions prises par certains. Donc, et ce problème-là, par exemple, quand là, on parle de la Syrie, il faudrait que ceux qui envoient les troupes en Syrie, tout le monde soit là, pour que le débat soit propre. Sinon, on prendra des décisions avec de bonnes intentions, mais à l'application sur le terrain, ça va toujours poser le problème. Maintenant, sur les priorités, la question des priorités en Afrique. Chez nous, tout est prioritaire. Monsieur François, vous savez, chez nous, on a des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes énergétiques, des problèmes environnementaux, et tout est prioritaire, des problèmes de sécurité, nous voulons voyager, on ne peut pas. Et tout ça, c'est prioritaire chez nous. Donc, il faudrait vraiment qu'on crée des cadres globaux où on peut débattre de tous ces problèmes-là d'une manière globale, mais avec une stratégie pour avancer. Et donc, moi, je pense, et puis, si vous prenez les pays africains isolement, le Rwanda ne parle pas des problèmes énergétiques de la même manière que le Togo. Donc, vous voyez que s'il faut inviter un ou deux pays, par exemple, au G7, pour parler au nord de l'Afrique, cette représentativité pose problème. Parce que le Rwanda, il va parler à sa façon. Donc, il ne va pas poser les problèmes de manière à ce que ça puisse répondre aux problèmes du Burkinabé, par exemple.
Oui, qui ne sera pas les mêmes que celles du Togolais ou du Namibien. Merci, Godson, d'avoir été en ligne de Lomé. Aziz, bonjour.
Oui, bonjour François.
Vous êtes en région parisienne, pour vous c'est un peu la même chose, hein. Le G7 c'est une survivance du passé.
Bah, tout à fait, moi je rejoins parfaitement le précédent auditeur pour dire que je trouve que le format actuel ne permet pas du tout de résoudre justement les problématiques ou disons les sujets qui sont à l'ordre du jour du G7. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore se regrouper en tant que pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis et leurs affidés, alors qu'aujourd'hui on voit que l'épicentre du monde est en train de se déplacer de l'Occident vers l'Orient? Comment est-ce que un pays comme la Chine, qui fait 1/5 de la population mondiale et qui est la deuxième puissance économique aujourd'hui, peut être mise à l'écart? Comment est-ce qu'un pays comme la Russie, qui sur le plan militaire compte, n'est pas associé à de telles réunions? Comment est-ce que toute l'Afrique, voilà, peut-être avec au moins au bas mot, peut-être l'Union africaine n'est pas représentée
Aziz, une question. À côté du G7, il y a aussi le G20 qui existe avec des grands pays comme la Chine ou l'Inde ou le Brésil, mais il n'y a qu'un seul pays africain, c'est l'Afrique du Sud. Donc dans tous les cas, les pays du Sud, les pays en développement et notamment les pays africains ne sont pas représentés.
Oui, c'est clair justement, et ces personnes se permettent de se regrouper pour traiter de mots qui minent notamment l'Afrique. Ils nous parlent d'inégalité, alors que dans leur pays, ces mêmes inégalités sont aussi criardes. Quand on prend un pays comme les États-Unis à eux tout seuls, où la discrimination faite à l'endroit des Noirs, il ne passe pas une semaine sans qu'on ne voit une bavure policière à l'endroit des Afro-Américains. On peut bien se demander comment est-ce que ces pays peuvent se permettre de parler, de lutter contre les inégalités dans le reste du monde, alors que non, ils ne balaient même pas devant leurs portes. Voilà, donc il se pose vraiment la question de la sincérité et de l'efficacité des conclusions qui sortent de ces sommets. Si on se rend compte effectivement aussi que les conclusions des années précédentes n'ont pas du tout été appliquées, on se demande sincèrement.
Oui, c'est souvent le cas, et c'est notamment ce que disent les représentants des sociétés civiles qui organisent des contre-sommets pour dire que ces grandes réunions internationales, c'est beaucoup de discours et que finalement c'est pas suivi dans les faits. Direction Bobo Dioulasso, bonjour Diafodé.
Oui, bonjour.
Alors, il y a tout de même quelques dirigeants africains qui sont invités hein, pour ce G7, notamment le président Kaboré, votre président du Burkina, en tant que président en exercice du G5 Sahel. Que souhaiteriez-vous qu'il dise aux participants, aux grandes puissances, si vous pouviez écrire ces fiches? Qu'est-ce que vous mettriez dessus?
Oui, bon, déjà c'est bien qu'un pays comme le Burkina soit représenté, mais comme je suis un peu dans la même lancée comme les autres, les précédents auditeurs, c'est pour dire déjà le problème même de représentativité du G7, voilà, qui pour nous, qui pour moi du moins, n'est pas assez représentatif pour pouvoir discuter de certains problèmes. Certes, le Burkina est invité, mais je sais aussi que, comme vous l'avez dit, c'est en tant que le pays qui préside le G5 Sahel, qui a été mis en place notamment pour lutter surtout contre le terrorisme qui frappe dans la sous-région actuellement. Mais si nous revenons au cadre global même sur les thèmes dont on doit discuter ces G7-là, notamment les inégalités dans le monde, je me dis que le cadre est vraiment restreint, le cadre n'est vraiment pas représentatif pour pouvoir discuter de certains problèmes, parce que notamment les problèmes d'inégalité sont aujourd'hui à la base des problèmes comme l'immigration. Et aujourd'hui, les problèmes des pays africains sont beaucoup frappés par la migration des jeunes et à la recherche d'une meilleure vie, à la recherche de l'emploi. Et aujourd'hui aussi, un pays comme la Chine qui est rentré sur le marché de l'emploi et qui influence beaucoup aujourd'hui le marché du travail sur le plan international n'est pas représenté. C'est bien vrai, le Burkina est représenté des pays comme l'Afrique du Sud, mais les cinq pays invités aujourd'hui, les cinq pays africains, notamment l'Égypte, le Rwanda, le Burkina et l'Afrique du Sud, invités à ces G7-là, pour moi, c'est largement insuffisant.
Pour vous, la présence du président Rochemark Christian Caboret, ça ne va pas changer la situation au Sahel, même s'il parle justement au nom du G5 en avançant sur les questions de lutte contre les inégalités et surtout de sécurité, il ne va pas être entendu, selon vous, il n'a pas vraiment d'influence, il est là pour la photo.
Oui, beaucoup plus, il est là pour la photo, hein, pour moi, parce que de façon générale, il y a toujours ce large fossé-là entre les discours, les conclusions des travaux des différents G7 et leur application sur le terrain. Voilà, donc pour moi, il est juste là pour la photo et ça ne va pas apporter grand-chose. Parce qu'il faut, les problèmes actuels qui frappent, notamment la sécurité et puis les problèmes d'inégalité et tout ça, il faut entrevoir des rencontres assez plus ouvertes, je dirais, avec plus de représentativité pour pouvoir discuter réellement des problèmes. Parce que, comme on le dit chez nous en Afrique, il est souvent très très difficile, voire même impossible, de raser la tête d'une personne à son absence. Voilà, et aujourd'hui, tous ces pays qui sont frappés par ces différents problèmes, qui sont minés par ces problèmes, notamment les pays africains, bon, inviter cinq pays africains, c'est d'ailleurs une nouveauté dans le G7, d'inviter déjà cinq pays africains, mais c'est largement insignifiant et c'est largement pas représentatif.
Insuffisant, d'accord, merci Diafodé. Nous restons dans le Sahel avec Mahamadou qui est à Niamey, bonjour.
Bonjour, monsieur François Mazé.
Vous, on parlait de lutte contre le terrorisme, de questions de sécurité. Vous, le fait que le président en exercice du G5 Sahel, le président du Burkina, monsieur Caboret, soit invité au G7, c'est une bonne chose, selon vous?
Effectivement, c'est une bonne chose, parce que si vous constatez aujourd'hui, un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina, mon pays, le Niger, font face à un paradoxe, un problème d'insécurité sur nos frontières. À chaque fois, nous enregistrons des morts dans les rangs militaires récemment, 10 morts au Burkina Faso. Vraiment, nous avons besoin de moyens logistiques et financiers, ni armés, ni équipés, nos militaires pour sécuriser les frontières, parce que nous ne pouvons pas nous développer tant pour autant que la sécurité soit assurée. La population vraiment souffre de cette insécurité dans nos pays. Vraiment, nous avons besoin de stabilité dans nos frontières.
Voilà, pas de développement sans sécurité. Merci Mahamadou, et les doléances, elles sont nombreuses. On va continuer avec Luc qui est à Sakété, c'est au Bénin. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous, si vous aviez une doléance à porter, quelle serait-elle?
Non, ma seule doléance est que le G7 représente, d'abord, le G7 représente déjà le monde entier. Et si le monde entier est réuni là, et que c'est rien que les puissances riches qui se sont réunies, ils n'ont qu'à faire quoi aux pays sous-développés? Annuler tous les accords de dette que ces pays ont. Puisque en tant c'est les pays riches, c'est même jusqu'à présent, c'est les pays riches qui fabriquent qui coupe les monnaies. Donc, le problème qui mine l'Afrique tout entière, c'est la pauvreté. Et si le G7 peut décider d'annuler tous les accords de dette, puisque imaginez qu'on nous dise qu'au Bénin, on est déjà dette intérieure de l'État, ça va dire nous sommes jusqu'à 2052. Pour la dette, ça va, c'est déjà trop.
L'aide 2052, hein, c'est la dette du Bénin vis-à-vis des institutions internationales. Pour vous, ce n'est pas tenable.
Non, ça là, c'est impardonnable. Ça c'est trop, s'il vous plaît. Ça c'est trop. Je voudrais que on parle de côté aide. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à nous aider à annuler toutes ces dettes là, toutes ces dettes. Et bon, après, comme ils ont dit qu'ils sont les riches et c'est eux autres ceux qui représentent et le G7 ou bien tout ça là. Ils n'ont qu'à annuler les dettes pour que nous ayons la paix. En plus, mes doléances, c'est que les industries qualifiées, qu'on nous envoie les industries qualifiées dans les pays pauvres aussi, pour qu'au moins on n'immigre plus vers eux. Sinon, il y a trop d'immigration qui va vers l'Europe, les États-Unis. C'est à cause de la pauvreté. Nous, on immigre. Les jeunes aujourd'hui, quand ils ont la bourse étrangère, par exemple, ils vont en Europe ou bien en Asie ou bien en Amérique, ils ne peuvent plus revenir parce que...
Ils ne reviennent pas, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour eux après. Merci, Luc, d'avoir été en ligne de s'inquiéter. C'est vrai que les demandes d'investissement, c'est ce qui revient souvent dans les commentaires que vous nous laissez. Notamment Horace, qui à Lomé, nous dit qu'il faut absolument soutenir la jeunesse au lieu de couvrir les vieux dirigeants africains. Gino à Johannesburg nous dit également que la seule solution, c'est que l'homme africain se libère lui-même et trouve ses propres solutions. Et même chose, même langage pour Abdourahman à Conakry. Il faut que les pays riches investissent dans tous les domaines de développement en Afrique et que les Africains prennent leur destin en main. Enoch nous suit à Brazzaville. Bonjour Enoch.
Oui, bonjour François.
Que voulez-vous dire, vous, à ce sujet? Est-ce que vous avez des propositions concrètes à nous soumettre?
Oui, en fait, si j'ai des propositions concrètes à faire, on veut dire que déjà le G7, quand il se retrouve, ce sont les pays les plus puissants, les plus riches du monde. Entre-temps, tout ce qu'il y a comme textes internationaux, tout ce qu'il y a comme accords ne sont exploités qu'à leur profit. Je parle par exemple des accords sur les droits de l'homme. Voyez-vous, tous les textes sur les droits de l'homme qui sont ratifiés, la terre appartient à tout le monde. Bon, beaucoup de jeunes sont en train de mourir sur la mer parce qu'ils veulent aller en Europe.
Ça marche dans un seul sens, vous dites?
Oui, c'est dans un seul sens. Les appliqués ne sont rappelés qu'au profit des pays les plus puissants et les plus riches. Mais cependant, lorsqu'on doit regarder du côté des pays les plus pauvres, il n'y a rien du tout. Je vais parler par exemple de la taxe sur le pollueur payant. Qui sont ceux qui polluent le monde? Ce sont les pays les plus industrialisés. Mais malheureusement, ils payent très peu. Au niveau des pays africains où il y a des arbres qui sont coupés, la forêt qui est des étendues qui sont déforestées, mais tous ces bois-là vont vers l'Occident. Mais on est en train d'appauvrir des pays, mais malheureusement, ils ne sont pas soutenus. Voilà, donc je souhaiterais que tous les textes internationaux devraient être appliqués au même titre au niveau de tous les pays, voilà un peu quoi.
Ça serait la première mesure d'égalité, ça, une véritable égalité entre les nations.
Entre les nations, comme ça se dit, mais malheureusement, les textes sont là depuis des années 40, des années 30, mais malheureusement, ils ne sont pas appliqués, également dans d'autres pays. Voilà un peu ma contribution à ce propos. Et que finalement, les frontières soient levées, puisque dit-on qu'on devrait circuler librement. Mais pourquoi laisse-t-on les gens sur la mer, au niveau de Lampedusa, qui veulent entrer en Italie? Des migrants sont abandonnés, les gens sont en train de mourir parce que la terre a été subdivisée en morceaux et elle a été morcelée. Bon, les frontières sont fermées. Il y a des indésirables sur certains territoires, sur certaines terres. Alors, je crois qu'on devrait regarder avec un peu plus.